Salutations, amis et frères, ici le docteur Bob Thiel de l'Église de Dieu continue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sabbat chrétien. Comment l'observer, pourquoi l'observer et si vous devriez l'observer. Je vous conseille de prendre votre Bible. Nous allons étudier de nombreux passages des Écritures aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par ce que Jésus lui-même a fait. Avant de commencer, je me souviens d'une critique que j'ai lue à l'encontre des Églises de Dieu. Pourquoi assister aux offices du sabbat chaque semaine? Nous ne faisons que parler du sabbat et des jours saints, semaine après semaine. Je crois que je n'ai pas prononcé de sermon complet sur le sabbat depuis la fondation de l'Église de Dieu continue. Bien que j'aie l'intention d'en prononcer d'autres, celui-ci est le premier. Je pense qu'il est important, surtout pour ceux qui ne respectent pas le sabbat, qui hésitent à le respecter ou qui se demandent comment l'observer. Je vais tenter d'aborder de nombreux points clés. Et même quelques détails spécifiques que vous connaissez peut-être déjà, ou peut-être pas. Peut-être vous êtes-vous déjà posé des questions à ce sujet, ou peut-être y avez-vous déjà réfléchi, ou peut-être n'y avez-vous jamais pensé auparavant. Essayons de déterminer, à partir de la Bible, et plus précisément du Nouveau Testament, quels jours les chrétiens doivent observer. Nous utiliserons également quelques passages de l'Ancien Testament, mais principalement le Nouveau Testament. Commençons par examiner les actes de Jésus lui-même. Si vous souhaitez suivre, je lirai la plupart du temps la version Second 21. Je commencerai par Marc 6:2. Vous pouvez suivre ma lecture ou simplement l'écouter. Marc 6:2. Le jour du sabbat étant arrivé, il commença à prêcher dans la synagogue. On voit donc immédiatement que le jour du sabbat, qui commence après le coucher du soleil le vendredi soir et se termine le samedi soir du moins, c'est ainsi qu'on les appelle en français, Jésus se rendit à la synagogue pour prêcher. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, verset 16, il est dit « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour lire. » Au verset 31, « Puis il descendit à Capernaüm, en Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. » Le sabbat dont il est question ici, certains pensent qu'il ne s'agit pas seulement du sabbat hebdomadaire, et peut-être aussi des jours mentionnés dans Luc 6:6. Remarquez autre chose à propos de Jésus, c'est aussi un autre jour de sabbat qu'il entra dans une synagogue et enseigna. Et dans Luc 13:10, il enseignait de nouveau dans une synagogue, le jour du sabbat, c'est-à-dire Jésus. Ce qui distinguait Jésus, du point de vue des pharisiens, n'était pas qu'il observait le sabbat. Les juifs et les habitants de la région l'observaient déjà. Les pharisiens imposaient de nombreuses restrictions concernant le sabbat et interdisaient certaines choses. Jésus voulait leur rappeler, voire leur enseigner, certains points qu'il semblait négliger. Principalement que le sabbat était un jour pour faire le bien. C'est d'ailleurs l'une des raisons de leur indignation. Jésus n'enseignait pas qu'il était interdit d'observer le sabbat, mais qu'il ne fallait pas le considérer uniquement comme un jour où l'on ne pouvait rien faire. Les Juifs avaient de nombreuses restrictions concernant le sabbat. Ils avaient établi tout un ensemble de règles. Je me souviens avoir lu des passages du Talmud et de la Mishnah, des écrits juifs, qui mentionnent ces règles. Par exemple, si un homme rentre chez lui à pied le jour du sabbat et qu'il ne rentre qu'après la fin du sabbat et qu'il a de l'argent sur lui, il doit le confier à une femme. Ceci afin que l'homme ne porte pas de fardeau le jour du sabbat. Il y a aussi un ordre d'importance, et les enfants étaient considérés comme inférieurs et soumis à toutes sortes de restrictions étranges. Ces restrictions ne se trouvent pas dans la Bible. En tant que chrétiens, nous devrions nous fier à ce qui est écrit dans la Bible. Je vais également aborder quelques versets à ce sujet. Mais Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu 12:12, vous n'êtes pas obligé de lire ce passage, mais vous pouvez le noter, a dit « Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat ». Bien souvent, les gens ne le comprenaient pas vraiment. Nous avons lu quelques versets de Luc et j'aimerais maintenant y revenir. Il s'agit du chapitre 6, à partir du verset 9. Luc 6:9. Jésus dit, « Je vous pose une question, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou de la perdre ?» Quelques chapitres plus loin, au chapitre 14, verset 5, Jésus dit, « Qui d'entre vous, si son âne ou son bœuf est tombé dans un trou, ne le retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ?» Ainsi, Jésus nous dit que nous devons faire le bien. Si notre âne tombait dans un trou, nous le retirerions. Nous devons faire le bien. En réalité, il affirmait qu'il faisait le bien aux hommes. C'est ce qui lui avait valu des critiques. En résumé, Si nous devons être bons envers les animaux, ne devons-nous pas l'être aussi envers les hommes? Maintenant, j'aimerais lire Jean chapitre 7, versets 23 et 24. Rendez-vous donc à Jean 7h23. Si un homme se fait circoncire le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas transgressée, êtes-vous irrité contre moi parce que j'ai guéri un homme entièrement le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. De nos jours, beaucoup de gens ne jugent pas selon la justice. Ils jugent sur les apparences. Cela concerne aussi ceux qui se disent membres de l'Église de Dieu. Certains le sont probablement, mais il leur arrive de s'appuyer sur des traditions à tort. Parfois, ils n'agissent pas conformément à la Bible. Parfois, ils ont des oreilles qui démangent et préfèrent certains orateurs pour leur style dynamique ou leur personnalité. En tant que chrétiens, nous sommes censés nous fier à la Bible. Pour rappel, on disait de l'apôtre Paul qu'il était un grand écrivain, mais qu'il n'était pas un bon orateur. Son discours était méprisable et sa présence physique faible. Pourtant, Paul était l'apôtre des gentils. Il a joué un rôle majeur. Il a écrit plus de livres du Nouveau Testament que quiconque. Il a été jugé à tort, y compris par des membres de l'Église de Dieu, ou qui auraient pu en faire partie. Certains affirment observer le jour du Seigneur. Cela tient en partie à des interprétations erronées de cette expression. On peut citer les erreurs de traduction dans les textes anciens, mais aussi le terme grec « Kyriaki », qui signifie aujourd'hui « dimanche », alors qu'il n'avait pas cette signification à l'époque du Nouveau Testament. Quant au jour dont Jésus était le Seigneur, que dit la Bible ? Ouvrons l'Évangile selon Marc, chapitre 2, et lisons le verset 27. Et il leur dit, et c'est encore Jésus qui parle, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le Fils de l'homme est donc maître même du sabbat. » Quel est donc le jour du Seigneur ? Le jour du sabbat. Quand est-ce ? Le samedi. Dans Matthieu 12h08, il n'est pas nécessaire de lire ce passage, Jésus dit aussi, « Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Ainsi, à deux reprises dans le Nouveau Testament, il est écrit que le sabbat est le jour du Seigneur. Je vais maintenant lire quelques passages de l'Ancien Testament. Ouvrez Genèse 2h03. Le livre de la Genèse traite des origines et il est dit en Genèse 2h03. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce que ce jour-là il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée et achevée. Remarquez qu'il est question du septième jour. Dans de nombreux pays, comme les États-Unis, le samedi est considéré comme le septième jour du calendrier. En Europe et ailleurs, certains calendriers indiquent le dimanche comme septième jour, bien que le sabbat soit le septième jour. Historiquement, le sabbat est reconnu comme le septième jour. Les Juifs affirment que le sabbat est le septième jour et on peut facilement prouver que ce même septième jour a été observé pendant des millénaires. Mais encore une fois, en Genèse 2h03, nous voyons que Dieu a sanctifié, rendu saint le septième jour, le jour du sabbat. Rendez-vous au livre de l'Exode, chapitre 20, où sont énumérés les 10 commandements. Au verset 11, il est dit « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Dieu a donc béni le septième jour et l'a rendu saint. Ce n'est pas une action humaine. Ce n'est pas une action des Juifs. Ce n'est pas une action de Moïse. Ce n'est pas une action de l'Église de Dieu continu. Il est dit que le Seigneur l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a rendu saint. Dans Isaïe 58, 13, j'aimerais lire un seul passage. « Si tu détournes ton pied du sabbat, si tu ne fais pas ce qui te plaît en mon saint jour, et si tu appelles le sabbat un délice, le saint jour du Seigneur honorable. » Nous voyons qu'il s'agit du jour saint de Dieu. C'était le jour saint de Dieu dans l'Ancien Testament, et Jésus est le maître du sabbat dans le Nouveau Testament. Ainsi, le septième jour est un jour qui a été rendu saint. Certains croient qu'après que Jésus a été cloué sur un pieu, certains préfèrent le terme crucifié sur une croix, une fois cela accompli, le jour du sabbat n'était plus d'application. Il n'avait plus cours, puisqu'il était censé avoir été cloué à la croix. Revenons à l'Évangile selon Luc, cette fois au chapitre 23, car nous allons lire le verset 56. Il y a quelque chose que je trouve particulièrement intéressant à noter. C'est après la mort de Jésus. Puis elles retournèrent à leur domicile et préparèrent des aromates et des huiles parfumées. Et elles se reposèrent le jour du sabbat, conformément au commandement. Certains pourraient prétendre qu'elles ignoraient que le commandement du sabbat avait été aboli si rapidement. Or, tout d'abord, il n'a pas été aboli, mais au moment où Luc a écrit ce passage, plusieurs décennies s'étaient écoulées. Si le commandement du sabbat avait été aboli, Luc l'aurait mentionné ou aurait clairement indiqué qu'il n'existait plus. Il ne l'a pas fait. Compagnon de l'apôtre Paul pendant longtemps, il savait que le sabbat était un commandement, et il a écrit qu'elle l'observait conformément à ce commandement. Le sabbat a-t-il donc été aboli? Bien sûr que non. De plus, si le sabbat était censé être aboli dans le futur, Jésus n'aurait pas fait de prophétie invitant les chrétiens à prier pour que leur fuite n'ait pas lieu un jour de sabbat. Consultez l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. On se réfère généralement à Matthieu 24 lorsqu'on aborde la grande tribulation, le début des douleurs, le retour de Jésus-Christ et autres sujets similaires. Ce passage traite effectivement de tout cela, mais un point intéressant est que Jésus a exhorté son peuple à prier, en Matthieu 24:20, pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Il s'agit là d'une prophétie. Pourquoi Jésus aurait-il pris la peine de demander de prier pour que la fuite n'ait pas lieu un jour de sabbat si celui-ci avait été aboli lors de sa crucifixion? De toute évidence, Jésus savait que le sabbat allait être observé ou aurait dû être aboli. Mais il a dit de prier pour que votre fuite n'ait pas lieu le jour du sabbat, ce qui implique fortement, voire prouve, que les chrétiens, au temps de la fin, étaient censés observer le sabbat. Sinon, pourquoi prier pour que votre fuite n'ait pas lieu à ce moment-là? Étrangement, certains théologiens ont affirmé que ce passage de l'Évangile selon Matthieu ne s'adressait qu'aux Juifs. Mais est-ce raisonnable? Jésus parlait à ses disciples et à ceux qui comptaient le suivre à l'avenir. Les Juifs ne prieraient pas, à la fin des temps, pour que leur fuite n'ait pas lieu en hiver ou le jour du sabbat, car ils ne croient pas à cette histoire de fuite. Ils ne croient pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Ils ne croient pas que les prophéties de Jésus fassent partie des Écritures. Ils ne croient à rien de tout cela. Ce passage ne concerne pas les Juifs, mais les chrétiens à la fin des temps. Et je suppose que je devrais vous demander, priez-vous régulièrement pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou le jour du sabbat? Jésus voulait que nous prions ainsi. Cela nous avertit notamment que nous pourrions être persécutés. Nous pourrions avoir à fuir, et cela arrivera inévitablement à la fin des temps. Il est important de rester vigilant face aux événements de la fin des temps. Cela ne signifie pas, pour autant, négliger nos activités quotidiennes. Jésus nous a dit dans Matthieu 6 de ne pas nous inquiéter du lendemain, car chaque jour a ses propres difficultés. Prenons soin de chaque jour. Mais en nous demandant de prier pour que notre fuite n'ait pas lieu en hiver ou le jour du sabbat, Jésus nous rappelle qu'un temps de fuite va venir pour l'Église vers la fin des temps. Il serait difficile de fuir en hiver, sous la pluie, la neige ou par tous les temps. Le jour du sabbat, Jésus voulait peut-être que nous soyons pleinement reposés. Pour certains, la fuite prendra du temps. Je ne sais pas. Une autre raison, plus moderne, serait que, comme nous ne regardons généralement pas la télévision le jour du sabbat, nous sommes moins susceptibles d'être au courant de certains événements. Je ne connais pas toutes les raisons pour lesquelles Jésus a dit de prier pour que notre fuite n'ait pas lieu le jour du sabbat, mais je sais que cela est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 20. Nous sommes appelés à faire cette prière. Et c'est ce que nous devrions faire parce que nous sommes censés observer le jour du sabbat. J'ai déjà donné quelques informations, mais le sabbat du septième jour est-il vraiment quelque chose que les chrétiens sont censés observer? Comment le savoir? Sur quoi se fonde-t-on? Devrait-on se baser sur ce qu'enseigne son Église? Si notre Église ne l'enseigne pas, devrait-on se fonder sur certaines traditions? Sur quoi devrait-on se baser? Si vous avez votre Bible, vous pouvez me suivre. Je vais ouvrir l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4. J'aimerais lire un passage des paroles de Jésus dans Matthieu 4:4. Jésus a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les chrétiens sont donc appelés à vivre selon les enseignements de Jésus et ce qui se trouve dans la Bible. Or, il est dit la parole de Dieu. Sommes-nous certains qu'il s'agit bien d'une référence aux Écritures? Prenez vos Bibles, et cette fois, j'aimerais que vous ouvriez la deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Nous allons lire un passage que l'apôtre Paul a été inspiré d'écrire. Ce passage précis, 2 Timothée 3, à partir du verset 16, affirme que les Écritures elles-mêmes sont inspirées et nous explique en partie pourquoi nous les possédons. Il est dit, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Nous devrions donc tirer notre doctrine de la Bible. Pour reprendre, c'est-à-dire pour dire aux gens qu'ils doivent changer s'ils ne font pas ce qu'ils devraient. Pour corriger, pour instruire dans la justice. Le psaume 119, 172 dit « Tous les commandements de Dieu sont justice ». Le sabbat est l'un des commandements de Dieu. Le verset 17 dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé à toute bonne œuvre ». Ainsi, la Bible nous est donnée pour que nous soyons équipés, corrigés, que nous vivions dans la justice et que nous menions la vie que Dieu souhaite pour nous. Le Nouveau Testament affirme-t-il que les chrétiens doivent observer le sabbat ? J'aimerais lire plusieurs traductions différentes de la Bible. J'ai l'habitude de lire la version New King James, mais je souhaite maintenant me tourner vers une autre version, protestante, et également vers deux versions catholiques. La version protestante montrera aux protestants que ce n'est pas une notion étrange. Quant aux deux versions catholiques, elles démontreront aux catholiques qu'il ne s'agit pas d'un complot protestant ou d'une tentative de l'Église de Dieu pour modifier quoi que ce soit. Il s'agit de montrer que même leurs propres traductions reconnues des Écritures soutiennent l'idée que les chrétiens doivent observer le sabbat du septième jour. Je vais commencer par lire la version internationale nouvelle, une version protestante, au verset 3 du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. « Or nous qui avons cru, nous parlons donc ici des chrétiens, nous sommes entrés dans ce repos, comme Dieu l'a dit. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai juré, ils n'entreront pas dans mon repos. Et pourtant, ses œuvres sont achevées dès la création du monde. » Car il a parlé du septième jour en ces termes, « Le septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. » Et au verset 5, et encore, dans le passage précédent, il dit, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Au verset 6, « Puisqu'il reste encore à certains d'entrer dans ce repos, et puisque ceux à qui la bonne nouvelle avait été annoncée autrefois n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, je passerai directement au verset 9. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. » Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne périsse en suivant leur exemple de désobéissance. Nombreux sont les Juifs qui n'ont pas obéi, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'en tant que chrétiens, nous devons obéir. Nous ne devons pas imiter les Juifs désobéissants, mais nous sommes tenus d'observer le sabbat du septième jour comme jour de repos. Je vais lire le même passage dans la Bible de Jérusalem. Cette traduction est une traduction catholique couramment utilisée. Hébreux 4:3. Mais nous qui avons la foi, parlant encore une fois des chrétiens, nous atteindrons le lieu du repos, comme dans le texte, et aussi, dans ma colère, j'ai juré qu'aucun n'atteindrait le lieu du repos que je leur avais préparé. L'œuvre de Dieu était sans aucun doute achevée dès le commencement du monde, comme le dit un texte en référence au septième jour. Après toute son œuvre, Dieu se reposa le septième jour. Au verset 5, et encore, le passage ci-dessus dit qu'ils n'atteindront jamais mon lieu de repos. Il reste donc vrai que certains y parviendront, et puisque ceux qui ont entendu la bonne nouvelle en premier ont été empêchés d'y entrer par leur refus de croire. Au verset 9, il doit donc y avoir un repos sabbatique réservé au peuple de Dieu. Permettez-moi de le relire. Il est tiré de la Bible de Jérusalem, version catholique. Il doit donc y avoir un repos sabbatique réservé au peuple de Dieu. Puisque pénétrer dans le lieu de repos, c'est se reposer après son travail comme Dieu l'a fait après le sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce lieu de repos, de peur que certains d'entre vous ne suivent cet exemple de refus de croire et ne se perdent. J'avais l'intention de lire l'intégralité du Nouveau Testament original de Douairin de 1582, mais pour éviter les répétitions, je me contenterai de lire le verset 9 du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Les passages bibliques que je consulte se trouvent sur le site web cogwriter.com. Il y a un article en anglais intitulé « The Sabbath and the Early Church and the Broad ». Si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez le consulter. Quoi qu'il en soit, le verset 9 du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament original de Douairin, dit « Il reste donc un sabbatismo pour le peuple de Dieu ». Le sabbatismo, c'est l'observance du sabbat. Ceci montre clairement, que ce soit dans les traductions catholiques ou protestantes, que le sabbat du septième jour est mentionné dans le Nouveau Testament et que les chrétiens sont appelés à l'observer. Jésus dit que nous devons vivre selon toute la parole de Dieu. Cela se trouve dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit que la parole de Dieu est là pour que nous soyons rendus parfaits, rendus complets, instruits dans la justice. Nous sommes appelés à observer le sabbat. Certains ont avancé divers arguments à ce sujet, mais je tiens à préciser un point. Il arrive que l'on comprenne mal le grec, et parfois même qu'on l'interprète mal. Mais qui connaissait le mieux le grec? Les auteurs de la Bible, bien sûr. Ceux qui vivaient à cette époque. J'aimerais lire quelque chose d'Origène d'Alexandrie, je crois qu'il s'agit d'un saint de l'Église orthodoxe orientale. L'ancien pape Benoît XVI l'a qualifié de grand maître, ou quelque chose d'approchant. J'ai quelques réserves quant à Origène d'Alexandrie, mais il parlait grec. Il comprenait certaines choses en grec. J'aimerais lire son œuvre intitulée « Opéra d'Origène », tome 2. Il est dit « Mais qu'est-ce que la fête du sabbat, sinon ce dont parlent les apôtres ? Il reste donc le sabbatisme, c'est-à-dire l'observance du sabbat par le peuple de Dieu. Il s'agit à nouveau du même passage du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Voyons comment un chrétien doit observer le sabbat. Le jour du sabbat, abstenez-vous de tout travail mondain. Consacrez-vous aux exercices spirituels, à la réparation, à la fréquentation de l'Église, à la lecture sacrée et à l'instruction. Voilà l'observance du sabbat chrétien. » Bien qu'il n'ait pas eu l'habitude de l'observer lui-même le samedi, Origène savait que le texte grec indiquait qu'il s'agissait de l'observance du sabbat et que cette pratique devait demeurer. Il savait que c'était le septième jour. Il expliqua comment, selon lui, les chrétiens étaient censés l'observer. Pourquoi tant de gens ignorent-ils qu'ils sont censés observer le sabbat aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. L'une d'elles, de nos jours, est que le terme grec d'Hébreux 4:9 a été mal traduit. Le terme exact est sabbatismo. La version protestante King James et la New King James version traduisent ce mot de manière trompeuse par un autre mot. Elles utilisent simplement le mot « repos ». C'est très trompeur. Pourquoi ? Parce que le terme « sabbatismo » n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Il est différent des autres termes. Il existe d'autres termes traduits par « repos » tout au long du texte. J'en ai lu plusieurs dans Hébreux 4, et aucun de ceux que j'avais lus auparavant n'était le mot « sabbatismo ». Si vous lisez votre Bible et que vous ne voyez pas l'expression « observance du sabbat »,« sabbat » ou quelque chose de semblable à « sabbatismo », sachez qu'il s'agit d'erreurs de traduction ou de préjugés de traducteurs qui vous ont induit en erreur. Vous pouvez consulter le texte grec. Ce n'est pas un secret. Vous pouvez aller le vérifier. Les érudits honnêtes admettront que le mot « sabbatismo » est bien celui qui figure dans Hébreux 4:9. La Bible est absolument claire. Il demeure une observance du sabbat pour le peuple de Dieu. Origène lui-même l'avait compris, même s'il s'est trompé sur le jour. Mais il savait ce que la Bible enseignait réellement, et c'est bien ce qu'elle enseignait. Nous voyons que cela est prescrit aux chrétiens. Il y a des décennies, je me souviens avoir discuté de cela avec un protestant. Il m'a dit en substance, « Écoutez, nous n'observons pas le sabbat car il n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament. » J'ai répondu, « Si, il y est. » Il a dit, « Je ne crois pas. » Alors, je lui ai lu ces passages dans la version internationale nouvelle. Il a alors affiché une expression étrange. Je lui ai montré la Bible. Il a regardé et a lu le passage que j'ai mentionné. Je vais le relire mot pour mot. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Il lit ce passage, mais cela ne le convertit pas pour autant à l'observance du sabbat. Les protestants affirment croire en la sola scriptura. Du moins, c'était le cri de ralliement du mouvement protestant. L'une des critiques que les catholiques adressent aux protestants et que je trouve d'ailleurs fondée est que ces derniers, tout en se réclamant de la sola scriptura, accepte en réalité le dimanche, jour que les catholiques romains ont imposé au monde chrétien prophète. Ils ne l'ont certainement pas tiré du Nouveau Testament. Bref, il est protestant. Il prétend vouloir faire ce que dit la Bible. Quand je lui ai montré ce que dit la Bible, j'étais sidéré par ce qu'il fit ensuite. Il a dit que sa grand-mère était une bonne baptiste ou protestante, peu importe le terme, et qu'elle ne l'observait pas, donc que ce n'était pas nécessaire. Alors, qu'a-t-il fait? Il a transgressé les préceptes bibliques. Il n'a pas vécu selon chaque parole de Dieu, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 4:4. Il ne semblait pas croire que si toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour reprendre, corriger et instruire dans la justice, elle s'appliquait à lui. Ce passage ne s'appliquait pas à lui, selon lui. Il se tournait vers les autres, comme beaucoup le font aujourd'hui. Je comprends que la plupart des protestants et des membres de l'Église de Rome n'invoquent pas un proche pour justifier leur présence à l'Église le dimanche. C'est avant tout une question de tradition. J'ai l'intention d'aborder ce sujet plus en détail dans un prochain sermon. En réalité, si l'on se réfère à la Bible, le seul moment où l'assistance hebdomadaire est prescrite aux chrétiens est le sabbat du septième jour. Bien que le sabbat soit un temps de ressourcement, beaucoup de protestants, notamment des érudits protestants, le considèrent comme un fardeau. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 28, j'aimerais lire les versets 11 et 12. Je pense que cette prophétie s'applique à ceux qui ne respectent pas le sabbat. Isaïe 28, verset 11. Car c'est avec des lèvres balbutiantes et une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple, à qui il a dit « Voici le repos, donnez du repos à celui qui est fatigué, et voici le rafraîchissement, mais ils n'ont pas voulu écouter. » Le voulez-vous, vous ? Je viens d'aborder le fait que Jésus a déclaré être le maître du sabbat. J'ai démontré, à partir de la Bible, que le sabbat est le septième jour. Si vous le souhaitez, vous pouvez par vous-même prouver plus précisément que le septième jour est en réalité le samedi. Cela dépasse un peu le cadre de ce que je vais traiter aujourd'hui. Nous avons vu que le Nouveau Testament affirme qu'il demeure donc une observance du sabbat pour le peuple de Dieu. Si vous appartenez au peuple de Dieu ou souhaitez en faire partie, obéirez-vous à Dieu plutôt qu'aux hommes ? Ferez-vous ce que vous devez faire ? Ou vous contenterez-vous de vous fier aux traditions ? Malheureusement, beaucoup de gens s'en remettent aux traditions. Qu'en est-il de l'apôtre Paul ? Certains pensent qu'il a aboli le sabbat, ne l'observait pas, ne l'approuvait pas, et ce genre de choses. Bien sûr, chacun sait que l'apôtre Paul observait le sabbat avant de devenir chrétien. Le Nouveau Testament indique clairement qu'il l'observait également après sa conversion. Si vous ouvrez le livre des Actes, chapitre 13, je vous lirai un passage en rapport avec ce sujet. La Bible montre clairement que l'apôtre Paul observait le sabbat. Ouvrons le livre des Actes, chapitre 13, et commençons par le verset 42. Les gentils supplièrent que ces paroles leur soient prêchées le sabbat suivant. Après la dispersion de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes fervents suivirent Paul et Barnabé, qui, s'adressant à eux, les persuadèrent de persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Paul prêchait chaque sabbat. J'essaie d'en faire autant. Passons à quelques chapitres supplémentaires. Nous allons au livre des Actes, chapitre 17, et cette fois-ci, nous commencerons par le début du chapitre. Acte 17, verset 1. Après avoir traversé Amphipolie et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où se trouvait une synagogue des Juifs. Alors Paul, selon sa coutume, entra chez eux et pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, expliquant et démontrant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et disant « Ce Jésus que je vous annonce est le Christ ». Et certains d'entre eux furent persuadés, et une grande multitude de Grecs pieux, ainsi qu'un certain nombre de femmes de la haute société, se joignirent à Paul et à Silas. Là encore, nous constatons que c'était la coutume de Paul. Lui et Silas le faisaient. Passons maintenant au chapitre suivant, Acte 18, verset 4. Chaque sabbat, ils discutaient dans la synagogue et persuadaient juifs et grecs. Il est donc clair que l'apôtre Paul observait le sabbat. Il le faisait régulièrement. Il en parlait aux gens. Il connaissait le sabbat et savait qu'il devait être observé par le peuple de Dieu. Espérons que vous en fassiez partie. Nous savons que Jésus était le maître du sabbat. Nous savons qu'il observait le sabbat. Nous savons aussi que, selon sa coutume, il lui arrivait de parler le jour du sabbat. Dans 1 Corinthiens 11:1, vous n'êtes pas obligé de lire ce passage, l'apôtre Paul dit « Imitez-moi, comme j'imite moi-même le Christ ». Le Christ observait le sabbat. L'apôtre Paul l'observait. Que devriez-vous faire, si vous ne le faites pas ? Et si vous le faites, j'espère aborder plus loin dans ce sermon quelques pistes pour mieux comprendre l'observance du sabbat. Il y avait de nombreuses preuves que les gens observaient le sabbat. Il est dit dans Hébreux 10:25 que les chrétiens ne doivent pas délaisser leurs assemblées, comme certains le font. Actuellement, au sein de l'Église de Dieu continu, nous avons de nombreuses congrégations dans certaines régions, comme en Afrique. Dans d'autres régions, comme dans le Pacifique Sud et en Amérique du Nord, nous en avons très peu. Nous avons des sympathisants dispersés dans le monde entier. Nous sommes conscients que la plupart d'entre vous, en dehors du Kenya et de la Tanzanie, ne peuvent pas assister aux réunions d'un groupe régulier chaque semaine. Nous le comprenons. Nous vous encourageons donc à suivre nos sermons hebdomadaires et les courtes prédications. Ceux d'entre vous qui sont abonnés à la lettre aux frères et sœurs reçoivent une suggestion de culte pour le sabbat. C'est ainsi que vous pouvez observer le sabbat comme une sainte assemblée. Si un pasteur se rend dans votre région, vous pourrez, nous l'espérons, vous réunir avec le peuple de Dieu, en particulier pendant la fête des tabernacles. Nous vous y encourageons, et nous ne voulons pas que vous pensiez qu'il est toujours acceptable de regarder les vidéos. Nous pensons que vous devriez le faire, mais seulement lorsque c'est possible. Nous vous encourageons également à assister aux offices, si vous n'êtes pas malade et si l'endroit n'est pas trop éloigné. Je crois que la Bible montre qu'il a été prophétisé que les gentils observeraient le sabbat. Beaucoup de gens disent que c'est une pratique uniquement juive. Prenez vos Bibles, ouvrez le livre d'Isaïe, chapitre 56, et nous lirons quelques versets. Isaïe 56, verset 1, dit « Ainsi parle le Seigneur, pratiquez la justice et faites le droit, car mon salut est sur le point de venir, et ma justice est sur le point d'être révélée. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui s'y attache, qui ne profane pas le sabbat, et retient sa main de faire le mal. » Ce qui est étonnant, c'est que les théologiens protestants affirment que ce passage annonce le retour de Jésus. Soit. Mais ils ne semblent pas voir que, dans cette prophétie, la justice est à nouveau liée au sabbat. Cela concerne-t-il aussi les étrangers, comme les gentils, ou seulement les juifs? Jésus va revenir et les gens devraient observer le sabbat. Croyez-le ou non, c'est ainsi que beaucoup de gens l'interprètent. Notamment des théologiens qui se disent protestants et catholiques. Passons au verset suivant d'Isaïe 56. Cette fois le verset 3. Ne laissez pas le fils de l'étranger qui s'est uni au Seigneur dire « Le Seigneur m'a totalement séparé de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Me voici, un arbre sec ». Car ainsi parle le Seigneur, aux eunuques qui observent mes sabbats et qui choisissent ce qui me plaît et qui gardent fermement mon alliance, même à eux je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleur que celui des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Et aussi les fils de l'étranger, c'est-à-dire les gentils, qui s'attachent au Seigneur pour le servir, et pour aimer le nom du Seigneur, pour être ses serviteurs, quiconque garde le sabbat sans le profaner, et tient fermement mon alliance, même eux, je les amènerai sur ma sainte montagne, et je les ferai se réjouir dans ma maison de prière. » Nous voyons donc qu'il s'agit d'une prophétie concernant le retour de Jésus et la venue d'étrangers, et qu'ils devront observer le sabbat avec justice, et que le peuple devra l'observer. On trouve également une prophétie dans le livre d'Isaïe, quelques chapitres plus loin. Allez au chapitre 66. Isaïe 66, je vais lire le verset 23. « Et il arrivera que d'une nouvelle lune à l'autre et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant moi, déclare le Seigneur. » On y voit donc aussi une prophétie. Certains se demandent s'il n'y a pas de passage dans le Nouveau Testament concernant le dimanche. En réalité, le terme « dimanche » n'y est pas employé, mais on y trouve des références. Il y a un verset dans la Bible qui parle des restes d'une assemblée, se tenant en quelque sorte un dimanche. Que signifie « en quelque sorte un dimanche » Laissez-moi vous lire le passage. Il se trouve dans le livre des Actes, chapitre 20. Ce qui est intéressant, c'est que cet événement a eu lieu après le coucher du soleil, le samedi soir. De nos jours, on dirait que c'était la nuit du samedi. L'apôtre Paul était en visite dans la région et, pendant son discours, il s'est apparemment un peu étendu. Il reprit la parole après le dîner, et il est dit dans Actes 20:7 « Or, le premier jour de la semaine, lorsque les disciples se réunirent pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur parla et continua son message jusqu'à minuit. » Le texte ne mentionne pas le jour du Seigneur. Il dit simplement qu'après le sabbat ils se sont mis à manger, et ensuite Paul déclare « Je pars demain matin. » Le dimanche matin, je serai en voyage, car ce n'est pas un jour de repos, c'est un jour de travail. Le terme grec pour « Seigneur » ne figure pas dans ce passage. L'expression « premier jour de la semaine » apparaît ailleurs dans le Nouveau Testament, et j'aimerais le lire. Il s'agit de 1 Corinthiens 16, verset 2. Beaucoup de personnes, notamment certains évangélistes protestants, aiment utiliser ce passage pour lui donner un sens légèrement différent de ce que je crois qu'il signifie. 1 Corinthiens 16:2 « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette de côté ce qu'il aura pu épargner, afin qu'il n'y ait pas de collecte à faire quand je viendrai. » En substance, certains protestants affirment que le premier jour de la semaine, nous sommes censés faire une collecte. Ce n'est pas exactement ce que dit ce passage. Ce que Paul dit, c'est que vous allez à l'église le samedi. Vous devriez vous concentrer davantage sur les questions spirituelles, car c'était samedi. Donc, le lendemain, mettez de côté quelques biens, afin que lorsque je viendrai, nous n'ayons pas à faire une grosse collecte le jour du sabbat. J'aimerais vous lire quelque chose que le regretté cardinal catholique James Gibbon a écrit. J'y ai déjà fait allusion, mais je pense que cela marquera les esprits si je vous lis ce que le cardinal catholique James Gibbon a dit ou écrit. Il dit « Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, et vous n'y trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures imposent l'observance religieuse du samedi, un jour que nous n'avons jamais sanctifié. Cela devrait être assez clair. Si la Bible est votre critère, le seul jour qui est sanctifié est le samedi. L'Église de Rome ne le fait pas. Les protestants semblent parfois vouloir contourner ce principe, mais en réalité, c'est bien ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne le sabbat. Les traductions catholiques de la Bible, au moins deux d'entre elles que j'ai mentionnées, parlent d'un repos sabbatique du septième jour pour le peuple de Dieu. C'est dans la Bible. Les traductions protestantes sont parfois correctes. Si vous êtes protestant, vous vous demandez peut-être pourquoi les traducteurs se trompent? Peut-être parce qu'ils ne croyaient pas vraiment en la sola scriptura. Ils ne craignaient pas vraiment la parole de Dieu. Ils ne pensaient pas qu'il était si important de la retranscrire correctement, de peur que vous ne la compreniez mal. Mais comment pourrait-on mal interpréter la vérité? Jésus a dit que sa parole était la vérité. La vérité, c'est que le mot « sabbatismo », qui signifie « observer le sabbat », se trouve dans Hébreux 4:9. C'est absolument clair dans la Bible. Alors, comment observe-t-on le sabbat? J'ai trouvé un article de l'ancien magazine Good News de l'ancienne Église de Dieu de la radio, datant de février 1957. Il était écrit par Raymond Cole. Je vais en lire des extraits. Puis j'aimerais aussi ajouter mes propres commentaires, car il n'a pas tout abordé dans cet article particulier. Au sein de l'Église de Dieu continue, nous recevons des demandes de renseignements de personnes intéressées qui n'ont aucune connaissance préalable de l'Église de Dieu. L'une des questions qui reviennent est « Comment observer le sabbat ? Que puis-je faire ? Que ne puis-je pas faire ?» Et ce genre de questions. Il est dit « Voici les réponses aux questions déroutantes que beaucoup de nos nouveaux convertis nous ont posées. Devons-nous préparer les repas le jour du sabbat ? Est-ce une violation de la loi de Dieu de voyager ? De s'occuper du bétail ? D'aider les autres ? De récolter les cultures le jour du sabbat ? Dieu exige-t-il que nous allions à l'église ? Et il ajoute, aucun autre aspect de la vie chrétienne ne présente autant de difficultés constantes que l'observance du sabbat. Chaque semaine nous apporte son lot de nouvelles situations, et pourtant, ce flux constant d'épreuves est une part essentielle de notre croissance spirituelle. C'est une épreuve pour prouver si nous pouvons grandir spirituellement ou si nous dépérissons. Dieu a institué le sabbat dans un but précis. Le Christ a déclaré que le sabbat avait été fait pour l'homme. Il est destiné au bien de toute l'humanité, et à juste titre, car la loi nous dit explicitement que c'est un jour de repos. Un jour où nous cessons nos travaux et adorons Dieu. C'est une sainte convocation, un commandement à observer de génération en génération, pour toujours, pour notre propre bien. Aucune question ne préoccupe davantage nos femmes que celle de la préparation des repas. Leurs conjoints non convertis sont souvent impliqués. Il fait référence au Lévitique 23, 2-3. Ce passage provient de l'ancienne version King James, que certains appellent la version autorisée. Voici les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez comme des saintes convocations. Vous y célébrerez mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. C'est une sainte convocation, vous n'y ferez aucun travail. C'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Fin de la citation biblique. Il dit ensuite qu'une fête est censée être un moment de grande joie, de fraternité saine et de réjouissance, un moment où l'on peut savourer les mets les plus raffinés. Aucun travail, aucune activité professionnelle pour gagner sa vie ne doit être accomplie le jour du sabbat. Alors, comment et quand est-il permis de préparer les repas du sabbat ? Consultez Exode 16, à partir du verset 22. Vous pouvez lire Exode 16h22, et je vous lirai ce qu'il a écrit ou comment il a cité. Et il arriva que le sixième jour, ils ramassèrent deux fois plus de pain ou de manne, soit deux homées par homme. Tous les chefs de la communauté vinrent le rapporter à Moïse. Il leur dit, « Voici ce que dit le Seigneur, demain est le repos, le saint sabbat du Seigneur. Ce que vous avez à cuire, faites-le cuire aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi, et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Ce qui restera, conservez-le jusqu'au lendemain matin. » Il explique donc que les préparatifs du vendredi pour le sabbat, la pâtisserie, la cuisson au grill, la couture et autres activités culinaires qui demandent du temps et de l'effort sont à faire la veille. Je précise qu'avec les progrès technologiques et la simplification croissante de la cuisine, nous ne faisons pas de grandes préparations culinaires le jour du sabbat. Mais la préparation normale des repas est quelque chose que nous faisons. Nous pensons qu'elle est sanctifiée par la parole de Dieu. Mais il dit, le jour du sabbat, vous pouvez prendre vos repas, qui peuvent être réchauffés, ce qui demande moins de temps de préparation. Si vous voulez préparer quelque chose de vraiment élaboré, il conseille de le faire la veille. Vous pourrez ainsi le réchauffer plus tard, car vous devriez pouvoir vous reposer le jour du sabbat. Il ne s'agit pas de passer tout votre temps à vous concentrer uniquement sur la préparation des repas. Il ajoute, le Christ et ses disciples traversaient des champs de blé le jour du sabbat. Affamés, les disciples cueillirent des épis pour manger. Voyant cela, les pharisiens critiquèrent le Christ, disant, « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. » Jésus leur répondit qu'il était permis de se procurer de la nourriture pour manger le jour du sabbat. Le Christ savait comment le sabbat devait être observé. Il ne dit rien aux disciples, mais il réprimanda fermement les pharisiens. Cela se trouve dans Matthieu 12, si vous suivez. Si vous aviez compris ce que cela signifie, « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Les disciples ne transgressaient pas la loi de Dieu lorsqu'ils mangeaient le jour du sabbat. Ils ramassaient quelques grains. Ils faisaient quelques préparatifs mineurs. En réalité, ils violaient certaines traditions ajoutées par les anciens juifs. Aujourd'hui encore, nous avons toutes sortes de traditions. Nombre de celles des protestants et des catholiques ne sont pas tirées de la Bible. Même certains membres de l'Église de Dieu suivent des traditions qu'ils ne devraient pas, qui sont en contradiction avec les Écritures. Pour revenir à l'article, nombreux sont ceux qui se demandent s'il est permis d'allumer un feu le jour du sabbat. Bien sûr, la question est légitime. Comment réchauffer un repas sans feu? Or, la loi interdisant d'allumer un feu dans Exode 35, 3 n'interdit pas n'importe quel feu. Elle vise à éviter les travaux inutiles liés à la préparation et à la cuisson des repas le jour du sabbat. Le commentaire de Clark, page 479, dit « Les Juifs interprètent ce précepte comme interdisant d'allumer un feu uniquement pour travailler, mais pour s'éclairer et se chauffer, ils considèrent qu'il est permis d'allumer un feu le jour du sabbat. Pour les Juifs, cela signifiait qu'il était permis de réchauffer leurs aliments. Le commentaire critique et expérimental, page 419, dit « Le sabbat n'était pas un jour de jeûne. Les Israélites cuisinaient ce jour-là, ce qui nécessitait bien sûr un feu, et cette conception de l'institution est corroborée par la conduite du Seigneur. » Il fait référence à Luc 14:1. Les Juifs avaient coutume de réchauffer les aliments le jour du sabbat. Lorsqu'ils recevaient la double portion de manne la veille du sabbat, il n'était pas nécessaire de cuisiner ce jour-là puisqu'ils en avaient le double. Ils la préparaient la veille. Pour revenir aux commentaires critiques, à cette étape, il n'était pas nécessaire d'allumer un feu à des fins culinaires. Il s'agit donc ici d'usage profane. L'interdiction a été introduite en lien avec les travaux du tabernacle. Il est fort probable qu'elle visait principalement les ouvriers chargés de l'érection d'un feu. Il était absolument interdit d'allumer un feu pour affûter des outils, faire fondre des métaux ou pour toute autre opération matérielle ayant un rapport avec le sanctuaire. Ainsi, lorsqu'on examinait les pratiques hébraïques, cette notion d'allumer un feu semblait se référer au feu utilisé pour le travail. Appuyer sur un bouton pour faire réchauffer un repas n'est pas contraire à l'esprit du sabbat. Nous le faisons dans l'Église de Dieu continue, et nous le faisons chez moi. Qu'en est-il du nourrissage du bétail, de la traite des vaches et des chèvres, et autres tâches similaires? Jésus a enseigné, « Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détachetait-il pas son bœuf ou son âne de son étable pour le mener boire? Et cette femme, ne devait-elle pas être délivrée de cette attache le jour du sabbat? » Jésus montre ainsi à ses détracteurs que nourrir et soigner le bétail ne viole pas le sabbat. Les personnes doivent pouvoir être guéries le jour du sabbat. Le bétail doit être nourri ce jour-là. Les vaches doivent être traites. Et si l'on n'est pas tenu d'accomplir ces tâches à grande échelle, il ne s'agit certainement pas d'une transgression de la loi de Dieu. Si votre travail à plein temps est dans une laiterie et que vous ne pouvez pas vous reposer le jour du sabbat parce que vous avez trop de vaches à traire, il suggère peut-être d'envisager une autre activité ou d'essayer de trouver une solution. Il existe parfois d'autres moyens de contourner certaines difficultés, comme élever du bétail sans avoir à le traire. Il cite l'exemple d'un frère qui élevait des dindes. Il préparait lui-même leur nourriture en la moulant. À la fin de l'été et au début de l'automne, cela lui prenait une journée entière, car en grandissant, les dindes mangeaient davantage. Il devait donc consacrer plus de temps à leur préparer de la nourriture. Comment allait-il gérer cela le jour du sabbat? Allait-il y consacrer toute sa journée? Eh bien, il a résolu ce problème en moulant un peu plus les 6 autres jours de la semaine. Le 7e jour venu, il avait assez de grains pour nourrir les dindes sans tout ce travail. Il a trouvé une solution. C'est ce que nous essayons de faire. Je ne crois pas que Dieu nous ait créés capables d'être créatifs sans raison. Il existe parfois des solutions créatives à toutes sortes de problèmes. Le Christ a laissé entendre que si un bœuf, un mouton ou un âne tombe dans un puits, on peut le sortir. Mais une urgence le jour du sabbat doit être une véritable urgence, et non une excuse pour enfreindre le sabbat. Permettez-moi de le citer mot pour mot. Si nos obligations matérielles commencent à prendre le pas sur l'observance du sabbat, nous devons les réduire et mettre le royaume de Dieu avant tout. Matthieu 6:33. Devons-nous aller à l'église le jour du sabbat? Il dit, revenons au Lévitique 23:2. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos, une sainte convocation. Je précise également que le commandement d'observer le sabbat nous enjoint aussi de travailler. Il est dit, pendant 6 jours, vous accomplirez tout votre labeur ou votre travail. Une sainte convocation est un acte de convocation ou de rassemblement, par sommation, pour des réunions de personnes. Le sabbat est le moment où Dieu nous convoque ou nous commande de nous rassembler. Il ne s'agit pas d'un appel ou d'une invitation à venir si vous le souhaitez. C'est un commandement de Dieu nous enjoignant de nous assembler le jour du sabbat. Je comprends que nous ne puissions pas tous faire cela. L'ancienne église de Dieu de la radio l'avait bien compris. Permettez-moi de vous lire ce qu'ils ont écrit. Nombreux sont ceux qui sont seuls au sein d'une communauté d'incroyants et qui ne peuvent se réunir avec de vrais frères et sœurs. Dieu connaît les circonstances qui vous empêchent de vous réunir avec vos frères et sœurs. Dieu ne vous a pas abandonné sans communion, car il a un message pour vous par l'émission The World Tomorrow Broadcast. Et non seulement dans votre foyer chaque soir, mais aussi dans des milliers d'autres. Ainsi, indirectement, vous participez à la communion religieuse, réunie pour écouter la parole de Dieu. Je vais faire quelques remarques. L'émission The World Tomorrow Broadcast n'existe plus. C'était une émission de radio. Aujourd'hui, nous avons des plateformes comme YouTube. Cela vous permet d'avoir une communion, en esprit si vous voulez, avec des personnes qui partagent vos convictions. Nous avons de nombreux sites web proposant des informations en plusieurs langues. Vous trouverez des liens vers tous ces sites sur notre site web ccog.org. Faire le bien le jour du sabbat. Est-il permis de faire le bien le jour du sabbat? Guérir? Visiter les malades? Aider les veuves et les orphelins? Visiter les opprimés? Certainement, si cela est possible. Les pharisiens ont posé cette question au Christ. Il leur a répondu qu'il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Matthieu 12. Jésus a accompli ses actes le jour du sabbat. De même, dans Luc 6:9, le Christ a accusé les pharisiens de détruire de facto la vie ou de faire le mal en ne faisant pas le bien le jour du sabbat. Nous avons le devoir d'agir avec droiture ce jour-là, de faire le bien. Ma famille et moi avons rendu visite à des malades, à des veuves ou à des orphelins le jour du sabbat. Mais cela ne se limite pas à ce seul jour. On peut le faire d'autres jours aussi. Mais encore une fois, il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Il a dit que nous ne devions pas rendre visite aux non-convertis le jour du sabbat simplement pour avoir une communion mondaine, car, dit-il, des commérages inutiles auraient tendance à se produire. Qu'en est-il des plaisirs le jour du sabbat? Le sabbat est-il un jour de ténèbres et de tristesse? Ou bien un jour de joie, de bonheur et de plaisir pieux? Nous sommes appelés à honorer Dieu le jour du sabbat. Nos désirs charnels doivent être réprimés ce jour-là. Les plaisirs, tels que les sorties à des événements sportifs, sont à éviter le jour du sabbat. Et j'ajouterai qu'il est également déconseillé de les regarder. Le jour du sabbat est un jour où nous sommes appelés à avoir Dieu à l'esprit. Nos conversations doivent être de nature pieuse, et non traiter des questions de subsistance ou d'affaires. Le sabbat est un jour de joie et de bonheur profond. Disons comme David, « Oh, combien j'aime ta loi ! Je la médite tout le jour. Je détourne mes pieds de toute voie mauvaise, afin de garder ta parole. Car tu m'as enseigné, c'est pourquoi je hais toute voie mensongère. » Cet article se conclut par « Dans un prochain numéro, nous répondrons à des questions telles que les devoirs du sabbat, l'instruction des enfants et bien d'autres problèmes spécifiques. » Je n'ai pas encore trouvé ce numéro contenant ces informations. Mais j'aimerais actualiser ces questions pour le 21e siècle, car bien que l'article date de 1957, ces principes restent valides. Comment observer le sabbat? Nous avons lu des passages de Raymond Cole et de la Bible. Il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Nous sommes appelés à faire le bien ce jour-là. Nous ne devons pas nous adonner à nos occupations mondaines, notamment gagner notre vie et ce genre de choses. Ce sont des choses que nous ne faisons pas le jour du sabbat. Une controverse qui revient souvent concerne les repas pris au restaurant le jour du sabbat. Est-ce approprié ou non? Je dirais simplement que les disciples, lorsqu'ils voyageaient, cueillaient des épis. Ils se procuraient donc de la nourriture le jour du sabbat. D'après certains éléments liés à l'un des jours saints de l'Ancien Testament, je crois qu'il n'est pas inapproprié de manger au restaurant le jour du sabbat lorsqu'on est en voyage. Cependant, en famille, nous ne dînons pas régulièrement au restaurant le jour du sabbat. Nous ne regardions pas la télévision le jour du sabbat, et nous ne le faisons toujours pas. Je suis certain que c'est une préoccupation partagée par les adultes comme par les enfants. Vous pourriez me demander, et les informations? Ou, qu'en est-il de certains événements spéciaux? Certes, il m'arrive de regarder quelques minutes d'informations. Mais je ne les regarde pratiquement jamais le jour du sabbat. Bien que, comme j'écris des articles en ligne chaque jour, je vois certaines choses sur Internet. Il n'est pas inapproprié de regarder les informations, mais je tiens à souligner que beaucoup de gens les regardent pour se divertir, et ce n'est pas approprié. Il y a peut-être d'autres programmes télévisés qui pourraient convenir le jour du sabbat, mais en règle générale, je ne considère pas que regarder la télévision soit approprié. Nous n'avons pas autorisé nos enfants à jouer à des jeux vidéo profanes le jour du sabbat. Je sais que certains membres de l'Église de Dieu ont un avis différent. Je ne pense pas que ce soit bon pour les enfants. En revanche, nous les avons autorisés à jouer à des jeux bibliques sur ordinateur, qui sont principalement des quiz pour les aider à apprendre la Bible. Nous avions du bétail et nous nourrissions nos poules et traillions nos chèvres. Nous essayons de nous relayer pour que ces tâches ne reposent pas toujours sur la même personne. Nous partagions aussi des tâches comme la préparation des repas. Le jour du sabbat, ma femme préparait très peu de nourriture pour se reposer elle aussi. Nous ne faisons pas de courses le jour du sabbat. Nous n'allions pas à l'école le jour du sabbat. Nous ne travaillons pas le jour du sabbat. Vous vous demandez peut-être comment nous faisons. J'ai une formation universitaire assez poussée et j'ai réussi à la mener à bien sans aller à l'école le jour du sabbat. Je devais passer l'examen d'entrée en master à l'Université de Californie du Sud, qui était prévu un jour du sabbat. J'ai dû écrire une lettre pour le faire reporter. J'étais avec quelques personnes juives. Je comprends que dans certaines régions, certaines cultures et certaines organisations, cette possibilité n'est pas offerte. Cela peut être plus difficile. Je peux aussi vous dire que lorsque j'étais en doctorat, on m'a déconseillé de m'inscrire car cela impliquerait de faire des choses le jour du sabbat. Ils savaient que je ne le ferais pas. Ils ont dit que ma participation ne serait pas prise en compte. Mais je n'ai pas travaillé le jour du sabbat. Je n'ai pas fait mes devoirs le jour du sabbat. Je tiens à le préciser. Un des professeurs s'est fâché contre moi. J'ai tenu bon et j'ai respecté le sabbat. J'ai réussi le programme et obtenu mon doctorat. Je sais que c'est possible. Avec nos enfants, nous les laissions parfois jouer dehors avec leurs amis. Nous allions parfois au parc. Nous allions parfois à la plage. Nous nous efforcions de faire du sabbat un jour agréable et saint. Contrairement à certains enfants d'autres groupes de l'Église de Dieu, les nôtres n'appréhendaient pas le jour du sabbat. En ce qui concerne les adultes, une question qui m'a été posée concerne les relations conjugales. En prenant pour exemple 1 Corinthiens 7, 3-4, et compte tenu du fait qu'Adam et Ève ont été créés juste avant le sabbat, je suis assez certain que les relations conjugales ne sont pas interdites le jour du sabbat. Il ne faut pas passer tout le sabbat à parler de choses charnelles, mais on n'est pas non plus obligé de ne parler que de choses spirituelles. On me l'a déjà demandé. Les gens pensent qu'ils ne peuvent parler que du sabbat ou de l'église toute la journée. Non, vous n'êtes pas obligé de faire uniquement cela, mais vous devriez étudier davantage, lire davantage et prier davantage. Il existe une brochure d'Herbert Armstrong intitulée « What Day is a Christian Sabbath ?» J'aimerais en lire quelques passages sur les raisons d'observer le sabbat. Il y est dit « Le sabbat est un commandement spirituel. Il concerne notre communion fraternelle, notre assemblée, le culte de Dieu. Il nous interdit notre travail habituel ou notre labeur quotidien par lequel nous gagnons notre vie, notre emploi ou notre commerce. Le sabbat a été institué pour l'homme. C'est une bénédiction pour l'homme. Il a été institué pour être vécu pleinement, pour se ressourcer spirituellement dans une communion bénie avec le Christ. La communion est censée être avec le Christ, c'est pourquoi nous sommes appelés à observer le sabbat, et Jésus l'a observé. Jésus a observé le sabbat durant sa vie terrestre. Des chapitres entiers des quatre livres de l'Évangile sont consacrés à la manière dont il a enseigné à observer le sabbat. Les pharisiens observaient quelque 65 règles strictes, des interdits et des obligations, instituées par les rabbins pour faire du sabbat un joug d'esclavage. Jésus les a balayés et guérissait le jour du sabbat. Certains diront « Je ne peux pas observer le sabbat, je perdrai mon emploi ». Laissez-moi vous dire une chose. J'ai connu des centaines de cas similaires. Il faut une foi vivante pour obéir à Dieu. Pouvez-vous lui faire confiance, même pour votre travail ? Ne demandez jamais à votre employeur si vous pouvez prendre congé le jour du sabbat. Faites preuve de sagesse et priez pour obtenir l'aide de Dieu. Ensuite, expliquez-lui calmement, mais avec sincérité et fermeté, que vous avez appris que ces heures, du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi, ont été rendues saintes par Dieu. Il vous ordonne de les garder saintes. Vous êtes sincèrement désolé si cela cause un quelconque désagrément, mais vous ne pourrez pas travailler pendant ces heures. Dites-le avec amabilité, mais fermeté. Dites-lui que vous êtes prêt à travailler le dimanche si cela peut arranger les choses. Sur des centaines d'expériences, j'ai constaté que 9 personnes sur 10 ne perdent pas leur emploi. Presque toujours, les quelques-unes qui l'ont perdu ont rapidement trouvé un meilleur emploi. Vous pouvez faire confiance à Dieu. C'est là qu'il faut mêler la foi à l'obéissance. C'est à vous de décider. Allez-vous observer le sabbat quoi qu'il arrive? Et où devriez-vous l'observer? Dieu nous commande de rechercher le corps, l'œuvre, qui est animée par la puissance de Dieu. Il existe une telle église qui accomplit l'œuvre de Dieu. Comme Jésus l'a dit, ce serait un petit troupeau, persécuté, méprisé par le monde. Nous, membres de l'Église de Dieu continu, notre petit troupeau, approuvons et observons le sabbat du septième jour. Nous accomplissons et dirigeons ce que j'ai appelé la phase finale de l'œuvre. Nous vous invitons à partager la communion fraternelle avec nous si vous êtes sincères et si vous désirez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus, Paul et les premiers responsables de l'Église observaient tous le sabbat du septième jour. Il est dit dans Hébreux 4:9 qu'il demeure donc un repos sabbatique ou repos du septième jour pour le peuple de Dieu. Le dimanche n'est mentionné nulle part dans les Écritures comme étant le sabbat chrétien. Si vous avez des doutes à ce sujet, soyez comme les Béréens qui, selon Actes 17:11, examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier si ces choses étaient vraies. Actes 5:29 nous exhorte à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne vous fiez pas à des traditions contraires aux Écritures. La Bible démontre que Jésus lui-même est le Seigneur du jour du sabbat et que les chrétiens sont censés l'observer. Le ferez-vous? Le ferez-vous, comme dit la Bible? Ici le docteur Bob Thiel, pour l'Église de Dieu continue.